Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Il est 21h16, dans une demi-heure, les drôles de dames sont à vous. Comme chaque lundi à 21h45, vous nous appelez au 32-16 pour poser vos questions à Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet. On est toujours en direct sur YouTube, sur Direct Studio, notamment Riton écrit salut Paulo. En parlant de Coldplay, que penses-tu du groupe Knorkator? Tu connais Paulo? Knorkator?
Non, ça ne dit rien.
Bon, voilà. Il y a Azeu qui dit: Thibaut, je suis dégoûté, tu fais la promotion des différents podcasts, mais tu oublies l'un des meilleurs, l'œil du Tib. Merci Azeu.
Alors, il vient de l'inventer, il n'y a absolument pas ça dans le chat.
Tiens, je te laisse vérifier sur le Direct Studio.
L'œil du Tib, c'est tous les week-ends matinales.
Ouais, c'est la nouvelle matinale.
Mais je sais.
Anaïs Matin,
mais je sais,
qui est exceptionnelle, et n'hésitez pas
à écrire. C'est Anaïs qui a envoyé le message.
Et ça, attends, ce week-end, tu as parlé de foot?
Alors, je le fais, c'est vraiment le principe, c'est que je parle que de foot.
Ah, ben, c'est ça. Mais t'as parlé d'un sujet que j'aimais bien, et j'ai oublié, c'était quoi?
Zidane.
Zidane. Et voilà.
C'est des petites histoires.
Exactement, voilà.
N'hésitez
pas. Enzo Zidane, 29 ans, qui a arrêté sa carrière.
Et à l'écouter, la matinale. Exactement. À suivre sur RMC, la minute de Fredo. On parlera également Bundesliga dans quelques secondes avec Polo et ce championnat 6 qui se dessine. Mais d'abord, l'Italie. Johan, avec une équipe qui séduit depuis le début de la saison, la Lazio. Adversaire d'un club français cette semaine,
De Nice.
Et ce sera jeudi soir sur RMC. Ce sera à Rome à 18h45.
Exactement.
Mais pourquoi faire cette Lazio? C'est quoi le projet?
C'est un peu la question, parce que la Lazio part sur un nouveau cycle, évidemment, puisque ils ont vendu Tiro Immobilier, Luis Alberto est parti aussi cet été. Donc deux des trois dernières grosses stars de la Lazio, avec Milinkovic-Savic, qui était parti un petit peu auparavant en Arabie Saoudite.
Tudor aussi est parti.
Oui, je sais pas si c'était une star, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle clairement qui est enclenché avec un nouvel entraîneur, Baroni, qui évidemment a pas le CV ou la réputation même d'un Sarri ou d'un Tudor. Mais pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Baroni, à la fois à Lecce qui l'a fait remonter et qui l'a maintenu en Serie A, et aussi à l'Hellas Vérone où on lui a cassé l'équipe en deux au mercato de janvier dans une situation intenable. Il a réussi à maintenir cette équipe-là, c'était vraiment un exploit limite incroyable de Baroni. Et il a été accueilli un peu cet été avec un énorme scepticisme. On a des supporters de la Lazio qui manifestaient en disant voilà, où sont les ambitions de notre club. Baroni, c'est un mec qui joue le maintien avec Lecce et avec l'Hellas Vérone. Ils avaient été habitués quand même à Sarri pendant plusieurs saisons, ou même à Tudor qui était un très beau pompier de service. Donc il y avait aussi un certain scepticisme après donc les départs de Luis Alberto, Immobilier et des recrues de joueurs qui jouer le maintien aussi, Dia à la Salernitana, Noslin à l'Hellas Vérone, donc Chauna aussi. Donc on n'avait pas des joueurs quand même qui avaient la réputation et la renommée qu'espéraient les joueurs de les tifosi de la Lazio, pardon. Et on a toujours ce sentiment avec la Lazio, c'est les années où ça va cliquer, ça va être très intéressant. C'est une équipe qui est capable de faire top 4, il l'avait fait avec Simone Inzaghi.
Où ça va cliquer?
Ouais, où ça va marcher, tu vois, où ça va prendre, ouais. où la mayonnaise prend.
Je connaissais pas l'expression. Ça se traduit en italien, peut-être.
Non, c'est d'au cerveau.
Oui.
C'est en anglais.
Ah, d'accord.
Ouais, exactement. Et donc, ces années-là, il y a la fameuse possibilité d'entrer dans le top 4. Mais sur la globalité, quelle est la position aujourd'hui de la Lazio dans le championnat italien? C'est top 6. Bordure top 6, parce que quand on fait les trois gros clubs du Nord, Inter, Juve, Milan, vous rajoutez le Napoli, la Roma, l'Atalanta, maintenant qui est une réalité claire du top 6, où est-ce qu'on met la Lazio? Quand ça clique bien, encore une fois, tu rentres dans le top 4. Et je trouve que les premiers matchs sont assez séduisants. Alors il y a eu des... Comme toujours, dans un début de projet avec pas mal de nouveaux joueurs, avec des joueurs qui viennent d'un niveau inférieur... à qui il faut donner cette exigence au quotidien, cette régularité aussi des grands matchs, c'est ce qui fait les grands joueurs, cette régularité là. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des très hauts et des très bas. Le match à Udine était catastrophique, le match contre l'AC Milan était très bon. Donc c'est 10 points en 6 matchs, on n'est pas en train de parler d'un parcours de champion ou tout ça, mais...
Ils ont gagné 3-2 ce week-end au Torino. Ouais.
Exactement, et le match est vraiment bon de la part de la Lazio, le Torino qui était quand même en tête. Donc ils ont joué quand même, de mémoire, le Milan. Ils ont joué les deux surprises de ce début de saison avec l'Udinese et le Torino.
Ah, juste, excuse-moi, quand on regarde sur son téléphone,
c'est plus de mémoire.
De mémoire, ça marche plus.
Mais justement, au début, j'ai fait de mémoire, et là, après, je vérifiais okay. sur la Fiorentina. Donc, il y a eu quand même des matchs durs, quoi, des confrontations, des match-ups un peu difficiles. Et ils s'en sortent plutôt bien. Et en plus, j'aime bien le jeu, cette capacité à garder le ballon, qui est un héritage de Maurizio Sarri. Le jeu de position, mais aussi ce qu'a amené Baroni, ce qu'il est en train d'amener, d'inculquer, d'intégrer dans cette équipe-là, c'est une plus grosse dose de verticalité. C'est-à-dire être capable de garder le ballon, oui, mais pour amener de la verticalité et être capable au bon moment de casser les lignes de pressing, de toucher l'attaquant, d'aller chercher les joueurs de côté pour des 1 contre 1. Et en plus, il y a des vrais bons joueurs dans cette équipe-là. Quand vous regardez le secteur offensif, Zakani, Castellanos, Boulaïdia qui fait un gros début de saison, c'est intéressant. Isaksen, le Danois, c'est intéressant. Tchaouna qui arrive un petit peu derrière. Il y a du talent. Et en plus, on a maintenant une sorte de facteur X. Depuis qu'il a commencé à jouer avec la Lazio, ça va faire rire beaucoup de Marseillais ou du supporter de la Ligue 1. C'est Nuno Tavares. Nuno Tavares, incroyable. Qui a le côté bulldozer et qui parfois est un peu maladroit. Souvent, diront certains.
Préviens-les que ça va durer 3 mois, par contre.
Ouais, possible. Mais tu sais, il y a aussi une chose, c'est que on le voit, la différence de physique entre Nuno Tavares et les autres. Parfois, sur certains matchs, même contre le Torino, j'ai eu l'impression que c'était un adulte avec des enfants. Il est ultra puissant. Il domine physiquement. Il va vite. Et en plus, pour le moment, techniquement, sur toutes les techniques de centre, centre à ras terre, centre à mi-hauteur, centre devant le but, centre au deuxième poteau, il est là et il fait des très bons centres. 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs. La Serie A n'a jamais connu ça depuis 2004. Ça fait 20 ans. Depuis qu'ils ont la data, depuis qu'Opta la data. Ça fait 20 ans qu'aucun joueur n'a réussi 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs en Serie A.
Après, le problème, c'est qu'il peut être à 4 toujours dans 6 mois, quoi.
Possiblement. Mais pour le moment, en tout cas, il apporte. Et quand on rajoute Guendouzi, qui a toujours cette importance-là au milieu de terrain, on est vraiment sur un effectif, je trouve, de qualité. Le Tito est accusé de pas assez recruter, de pas mettre assez d'argent. Avec l'argent qu'il a mis, moi je trouve que l'effectif est de qualité et le jeu pour le moment est assez séduisant.
Les Niçois sont prévenus, ce sera jeudi à 18h45 pour cette deuxième journée de Ligue Europa. La Bundesliga sur RMC à 21h23, on a parlé tout à l'heure, Polo, du Top Spiel, ce Bayern. D'ailleurs, c'est un peu les deux seules équipes dont on avait parlé la saison dernière. Mais là, on se dirige peut-être, Polo, vers un championnat totalement différent avec plein d'outsiders qui sont là, quoi.
Bah oui, parce que en fait, depuis le début de la saison, on a aussi parlé que deux choses. C'est un, est-ce que Leverkusen est capable de refaire sa saison du siècle de l'année dernière? Personne n'y croit. Et puis surtout, la réaction qu'on attendait du club munichois et ce qu'ils sont en train de faire. Mais on oublie un peu les autres. Et le 1-1 de ce week-end, évidemment, ça favorise Leipzig qui a éclaté Augsbourg. Mais à la rigueur, ils avaient fait 0-0 contre Saint-Pauli le week-end dernier. Donc c'est pas forcément parlant. Mais si tu rajoutes ce qui s'est passé à Wolfsburg, le 2-2 de Stuttgart avec des erreurs d'arbitrage dramatiques, d'ailleurs j'aurais pu en faire ma minute, l'arbitre FIFA Jablonski est souvent interrogé le lendemain dans des émissions spécialisées pour le football et on lui demande presque de faire des contritions, donc Fred et moi on commence à vieillir, moi les témoignages comme ça, les contritions en place publique, si tu veux, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'histoire, mais des choses comme ça. Et moi, ça me plaît pas du tout ce qui se passe en Allemagne par rapport à ça. Évidemment, la victoire de Francfort, Holstein Kiel, après leur couac en Europa League, le 3-3, alors qu'ils menaient 3-1 après 86 minutes. Là, c'est pareil, c'est inconstant, mais ils sont deuxième ce soir. Dortmund, qui a encore dû être mené 2-0 dans le petit derby contre Bochum, qui finalement l'emporte 4-2 avec un doublé de Guirassy. Et puis, je crois que j'ai cité les 6 que je voulais. Ouais, Leverkusen, Dortmund, tac. Oui. Et donc, finalement, on risque d'avoir un championnat beaucoup plus serré qu'on veut le voir, surtout par rapport au niveau de certaines équipes. On a un peu parlé cette saison de Stuttgart déjà. L'inconstance de Francfort, de Leipzig et de Dortmund, s'ils arrivent à régler ça, je pense que ça peut faire un championnat 2024-2025 assez exceptionnel et qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Et ce sera à suivre tous les lundis avec toi, Polo, dans Génération After spécial drôle de dame. Dans un instant, on parle de l'Espagne, la première défaite du Barça en Liga. On parle également de l'Angleterre avec le quadruplé exceptionnel de Cole Palmer en une seule période. Mais d'abord, attention, il a mis la barre haut tout à l'heure. Il s'est emballé, il nous a dit « j'ai du lourd avec ma musique ». Tout de suite, c'est la minute de Fred. C'est Shakira?
Ben ouais!
Ah ben oui!
Bravo!
Bravo Fredo!
Bah, t'as gagné.
Ouais,
bah,
c'est
ouais.
gagné ce soir. Non, Shakira. Ah, oui. Télé Madrid. Je te laisse, Madrid. Et dis notamment, avec ta bouche au goût d'anis. Parce qu'on boit beaucoup de l'anis à Madrid.
Ah.
Voilà. Donc, très belle chanson de Shakira qui est une chanteuse fabuleuse. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment très bien. Alors, c'est pas de la grande musique, mais c'est de la musique extrêmement bien produite. Les paroles sont très sympas, les musiques sont bien.
Premier tour de Roland Garros. Hein.
Non. et Shakira, pourquoi j'ai choisi ? Parce qu'elle est colombienne. Ouais. Et je vais vous parler du joueur colombien le plus connu au monde, James Rodriguez. Et non pas James, hein, vous le savez maintenant, James Rodriguez. Alors, James Rodriguez qui joue au Rayo Vallecano.
Oui, c'est vrai.
Alors, il n'est pas venu pour le projet sportif, vous en doutez bien. Il n'est pas venu pour l'argent, vous en doutez bien, parce que le Rayo, ils n'ont pas une thune, même s'il a un salaire correct, mais enfin, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a pu gagner au long de sa carrière. Mais comme beaucoup de joueurs passés par l'Espagne, je vous rappelle qu'il a joué au Real Madrid, et surtout les joueurs passés par Madrid, eh ben, il veut absolument revenir à Madrid, et il a eu raison. Jouer au Rayo, ça lui permet encore de s'amuser, de rester en forme, d'être un peu compétitif et surtout de vivre dans une des plus belles villes du monde, en tout cas pas pour vivre. Et pourquoi James, on en parle ? Parce qu'il était titulaire ce week-end pour le petit derby entre Rayo Vallecano et Leganés, un partout. Et James était titulaire pour la première fois, il a joué 63 minutes et il a été élu MVP du match. À 33 ans, une expression espagnole dit quien tuvo retuvo, qui a eu a toujours, qui a eu a retenu. Et là toujours, il reste un joueur avec une classe exceptionnelle, avec une carrière malheureusement qui n'a jamais été à la hauteur du talent qu'il avait au départ.
Fredo, merci pour cette minute. L'histoire était pas mal, mais là vraiment la musique.
Allez,
était vraiment...
plus fort Polo.
Ah, je vais rentrer à 22h, je vais ouvrir Spotify, je vais mettre le best-of de Shakira, je pense. Whenever, wherever, c'est magnifique. Waka, on
avait. Mais c'est encore mieux en espagnol quand tu joues en espagnol.
Ouais, je comprends pas les paroles. Allez, dans un instant, l'Espagne avec le Barça qui a été battu pour la première fois en championnat. On va parler également du quadruplé de Cole Palmer. La minute de Johan Crochet. Alors là, maintenant, la barre est tout là-haut. Johan, bonne chance. Et d'abord, un détour par le direct. La 7e journée de Ligue 2, Guingamp-Camp, Xavier Grimaud.
La 43e, toujours 1-0 pour les Guingampais. Le buteur, c'est Jacques Sioué. À la 6e, c'est un moindre mal. Hein. Pour les Canets, il y a beaucoup de frappes. Guingampais, dans une frappe de Grieb, deux frappes de Brighton Labo, une frappe de Sioué qui a trouvé le poteau de Mandrea. Et là, attention, il y aura peut-être un rouge pour un Guingampais où il frôle la correctionnelle avec une semelle qui mériterait peut-être un deuxième jaune. A priori, l'arbitre ne va pas le sortir. Donc Guingamp devrait rester à 11 et Guingamp est devant à une minute de la mi-temps. 1-0 pour les Guingampais face aux Canets.